J'ai réfuté totalement ce qui s'est
passé.
Bonjour à tous et merci d'écouter Parole aux auditeurs, votre émission 100% interactive. C'est lundi 30 janvier 2012. Nous nous penchons avec vous sur la lutte contre le banditisme urbain causé par des criminels et autres bandits appelés communément coulants dans la ville de Kinshasa. Un phénomène qui sévit également dans d'autres villes de la République démocratique du Congo. C'est près d'une année que le ministère de la Justice a lancé l'opération Tolérance Zéro dans le cadre de lutte contre ce phénomène. Plus de 23 procès se sont tenus l'année passée dans la ville de Kinshasa et nombreux de ces bandits ont été condamnés à des peines de prison. Mais des cas des opérations de ces bandits sont encore enregistrés dans beaucoup de quartiers de la capitale. Que proposez-vous pour lutter efficacement contre ces banditismes? Nous en parlons avec Al Kipengé, qui est le président de la Fédération de Karaté Do, ici à Kinshasa, qui est déjà en ligne. Marie-Chantal Lumba, Titine Poutou sont à la réalisation de cette émission sous la supervision de Nico Ngata, et Ricky Sigatala est à la mise en onde. Pierrot et la Méjou vous la présentent, fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Radio Capri est ceci avec vous sur la solution. En direct avec toutes les types de paroles aux auditeurs. Paroles aux auditeurs. Parler, nous transmettons. Proposer, nous discutons. Paroles aux auditeurs. Le lundi à vendredi à 11h et mercredi à 10h, heure de Kinshasa. Prenez la parole et nous vous écoutons. C'est sur Radio Capri.
Et aujourd'hui, la piste, les pistes des solutions, bien sûr, hein, c'est autour du phénomène Kuluna qui sévit dans la ville de Kinshasa. Et aussi, vous connaissez ce phénomène dans d'autres coins de la République. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter efficacement contre cela? Plusieurs procès se sont tenus, comme je venais de le dire, avec beaucoup plus de détails durant l'année 2011 par l'opération croisade contre les Kuluna lancée par le ministère de la Justice. Hein, les chefs des gangs de ces bandits ont été condamnés à des peines des prisons, mais les mouvements et les opérations sévissent encore dans la capitale. Extorsion des biens, violence physique, ils sont armés des armes blanches, mais ensemble nous allons dégager dans cette émission des pistes et des solutions pour mettre fin à ces phénomènes, que ce soit à Kinshasa ou ailleurs à travers le pays. Nous avons en ligne dans cette émission Al Kipengé. Bonjour Al Kipengé. Al Kipengé, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Voilà, nous allons bien, merci. Nous allons vous garder sur les antennes, nous allons aussi écouter les auditeurs et on va revenir à vous pour que nous puissions ensemble écouter les auditeurs, ce qu'ils pensent de ce phénomène Kuluna et surtout des pistes de solutions qu'ils dégagent. Et nous allons commenter, analyser cela ensemble jusqu'à la fin de cette émission. Garder la ligne de temps que nous puissions écouter les auditeurs qui sont déjà là, comme ingénieur Mangoyo, qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour, ingénieur Mangoyo.
Bonjour, monsieur Jody Kachama.
C'est Pierrot et la Meiji. Jody Kachama vient de clôturer au Capri Service il y a quelques 5 minutes. Hein. Nous sommes dans parole aux auditeurs. Merci beaucoup. Vous êtes en ligne. Pour vous, vous êtes à la ville de Kinshasa. Le ministère de la Justice a lancé l'opération croisade contre les Kuluna. On a vu des procès se tenir en chambre foraine dans les quartiers, devant les maisons communales. La situation est perdue sur le terrain. Quelles sont les autres voies qu'il faudrait aujourd'hui explorer, ingénieur Mangoyo, pour lutter efficacement contre ce phénomène?
Merci, M. Pierrot. Je crois que, à un certain moment, il faudra que les responsables de ce pays, les autorités, doivent apprendre à résoudre certains problèmes à la racine. Moi, je crois que on a dû arrêter les Kuluna. On a arrêté pas mal de bandits, mais le phénomène ne disparaît pas. Au contraire, dans la ville de Kinshasa, nous assistons chaque jour à ce genre de banditisme et les gens ne sont pas tranquilles. Je crois que ici, Pierrot, il faut d'abord identifier les causes. À mon avis, il y a cette dépravation des mœurs qu'on n'arrive pas à maîtriser. Il se trouve, au niveau de la scolarisation. Les enfants, on ne cessera de le dire. nos enfants ne sont pas suffisamment scolarisés. Ou alors ils sont mal scolarisés. Ça, c'est un. De deux, il y a la consommation de la boisson alcoolisée. Piro, faites la ronde de quartier. Vous verrez que depuis le petit enfant là, tous les enfants ont accès à la boisson alcoolisée, appelée communément Soupratol. On avait dit qu'on avait supprimé la consommation ou alors réduit, mais aujourd'hui, quand vous passez, vous verrez, tous les enfants boivent ça. Alors, comment voulez-vous les avoir pris ma fête, ça donne à livrer à longueur de journée, et il y a aussi ces maisons qui fabriquent le lotoco. Il y en a plein dans les quartiers, il s'agit de ça. Et la police, on a mis sur pied ce qu'on appelait, c'est comme moi, une structure là, anti-drogue là. Je ne vois pas cette structure là fait exactement sur le terrain. Donc les enfants se droguent. Chez nous, par exemple, ici à Malouka, vous savez qu'il y a des sites où on fabrique le lotoco. Il y a aussi cette boisson alcoolisée. Lorsque les jeunes gens se droguent, ils boivent cet alcool-là, eh bien, attendez-vous à partir de 20h, 21h, eh bien, c'est la panique. Moi, je pense qu'à mon avis, au lieu de continuer chaque fois à arrêter, à envoyer à boulot, faire des bruits inutiles, il faudra que les autorités de ce pays prennent les choses à bras le corps. Ils doivent d'abord, un, réglementer la consommation de la boisson alcoolisée, supprimer toutes ces ventes qu'on trouve à travers les avenues, ce n'est pas normal. Faites un effort pour que cela cesse. Et ensuite, il y a une loi qui réglemente la consommation de l'alcool, la loi qui réglemente la fabrication, qui interdit la fabrication des choses de l'autoco. Il faut qu'on arrive aussi à réglementer cette histoire-là, à supprimer tous ces endroits-là où on va de l'autoco. La police aussi. Il faut que la police fasse son travail. Finalement, on ne comprend pas. Vous êtes à côté d'un conteneur et il y a ces jeunes gens qui viennent avec des armes blanches et vous voyez la police qui ne réagit pas. Et lorsque vous posez la question, non, vous passez les moyens pour réagir. Finalement, qu'est-ce que cette police-là? Pourquoi on l'appelle police de proximité? On ne comprend plus rien. Donc, je crois que à une époque, moi j'ai grandi à l'intérieur du pays, j'ai grandi à Boma. Mais je vous assure, à l'époque, il y avait aussi ce phénomène-là, mais qui n'était pas tout à fait pareil, parce que là, il n'y avait pas des armes blanches, mais il y avait plutôt des poignées, les gens se battaient. Mais comment on a résolu ce problème? C'est on a mis l'accent sur la scolarisation, sur la professionnalisation des enfants. Et on a créé des écoles professionnelles, ça c'est au niveau des églises catholiques, et on a vu des jeunes gens, on les a récupérés comme ça. Il faut, c'était l'échec. Voilà. Un échec de l'éducation
on vous a suivi. Vous avez dit que tout passe d'abord par ce problème de l'éducation, il faut la scolarisation, il faut la professionnalisation de jeunes hein, qui sont désœuvreux, mais vous avez beaucoup insisté aussi sur la lutte contre la consommation de l'alcool, mais aussi l'efficacité de la police, voilà autant de mesures qui peuvent aider à lutter efficacement contre ces phénomènes coulounants. 081-899-6315.
Voilà.
081-899-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Vous pouvez également nous le faire par l'adresse ca@radiocapi.net, mais aussi nous déposer un commentaire sur la page Facebook de l'émission Parole aux auditeurs. Et ce commentaire pourra être récupéré et exploité au cours de cette émission. Nous avons Douglas qui nous appelle d'Ekikuit dans la province de Bandundu. Bonjour Douglas.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la radio Papi ainsi que tous nos frères d'Ekikuit.
Vous avez suivi l'ingénieur Mangoy de Kinshasa, il a donné des pistes et des solutions de l'éducation à l'efficacité de la police en passant par la professionnalisation des jeunes et l'interdiction de consommation de boissons alcooliques. Voilà autant de mesures qui peuvent aider à lutter contre ces phénomènes. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter au-delà de ce que l'ingénieur Mangoy a dit, Douglas?
Ok, moi je peux ajouter ceci. Il faut que notre gouvernement puisse créer des emplois pour que ces jeunes qui se donnent à tous ces désordres puissent trouver du travail. Et si par exemple ces jeunes ont du travail, je pense qu'ils ne vont pas arriver à ces actes. tout à incombre à notre gouvernement. Mm-hmm. Je pense que c'est le gouvernement qui fait tout ça. Si mm-hmm. le gouvernement crée des emplois, je pense que ces histoires vont diminuer. Je pense que vous avez donné, je pense hier, hein, l'information qu'on a tué un parce que 40 ans là, devant sa maison. Alors, c'est pas du tout normal. Il faut que notre gouvernement puisse prendre des choses au sérieux. Voilà.
Merci Douglas et Kipit. Vous pensez que il faut la création d'emplois, il faut savoir qu'il faut occuper ces jeunes. Quand ils seront occupés, alors ils ne pourront pas se livrer à ces banditismes. Nous avons aussi Robert Kitatananga et puis on va revenir à Alcitendeki sur les antennes qui écoutent ensemble avec nous, c'est le tour de producteur. Robert, vous êtes à Kananga au Kassai Occidental, bonjour.
Bonjour, monsieur. La passe du Valère sur la justice fait mal et tout ce nom à Kananga. Par exemple, je vais vous donner un certain fruit qui est vraiment aussi le verre de maïs. Le verre.
Ok, voilà. Celui qui parle, il a oublié. Nous ne parlons pas de la taxe sur la valeur ajoutée. Nous parlons de la lutte contre le phénomène Kuluna. C'est demain mardi que nous allons exploiter les sujets autour de la taxe sur la valeur ajoutée. Nous allons revenir à vous, Alcitengue. Vous avez suivi les deux premiers auditeurs hein, qui ont donné les pistes et des solutions. Mais bien avant que nous puissions commenter les pistes et des solutions proposées par les auditeurs, nous avons vu tout ce qu'il y a eu comme opération lancée par le ministère de la Justice. Et on voit aussi le fait que les phénomènes Kuluna persistent dans la ville de Kinshasa. À votre œil, en tant d'abord qui est sportif, parce qu'on pourra aborder l'aspect de sportif après, mais bon, en tant que parent, en tant que Kinois, opérateur économique, membre de la société, comment pour expliquer la persistance de ces phénomènes Kuluna après autant de déploiements, d'opérations, que ce soit les arrestations, les procès, les condamnations, tout cela?
Nous sommes là devant un phénomène de société. Bien entendu, lorsque la délinquance atteint un niveau aussi dangereux que celui qu'a atteint le phénomène Kuluna dans une ville comme Kinshasa, il faut quand même se dire qu'on a deux paliers de résolution. Le premier palier, c'est une résolution curative. Ça veut dire la situation est déjà là, il faut faire face à cette situation et la réprimer, la contrôler, la maîtriser. La deuxième phase, elle est beaucoup plus importante, c'est la prévention. Comment faire pour que ça ne revienne pas? Très malheureusement, on a observé que les tentatives du gouvernement et du ministère de la Justice ont eu comme résultat un petit ralentissement et tout de suite il y a eu une résurgence. Donc ça pose toute la question que l'ingénieur Mangoyo a tout à fait évoqué tout à l'heure. Il faut toucher le problème à la base, à la source. Et lorsque vous regardez le problème à la source, l'urbanisation pose problème. Vous savez, lorsque vous mettez des poules dans une porcherie, elles vont toutes mourir. La ville de Kinshasa a été construite d'une certaine manière, mais elle s'est étendue de manière extrêmement désordonnée, créant aujourd'hui des quartiers qui sont en fait faits pour produire la dangerosité nécessaire pour être en mesure de promouvoir la délinquance. En fait, aujourd'hui, la manière dont la ville s'étend se prête à un développement intense de la délinquance. Il y a des quartiers où même la police ne peut pas agir correctement. Deuxième chose, la famille. Vous savez, la famille, c'est la cellule mère. C'est là-bas qu'on forme des citoyens. Mais si la famille est déstabilisée par la pauvreté, par l'absence totale de dignité humaine, les parents perdent le contrôle du fait de la pauvreté et d'un mauvais, d'une mauvaise politique salariale dans le pays, ils se posent justement en une perte totale de contrôle au niveau de l'éducation, bien entendu, on produit des citoyens que l'on n'a pas prévus et qui deviennent dangereux pour leur propre pays. De mon point de vue, il est important que le pays restaure l'espoir, que les gens se rendent compte que le résultat est au bout de l'effort. Aujourd'hui, les Kinois disent « sans que l'on compamba ». On peut donc par n'importe quel mécanisme s'en sortir. Alors, n'importe quel mécanisme, ça peut être une personne, lui prendre ce qu'il a. Et en fait, nous devons être en mesure de donner un autre message à notre communauté. Nous devons être en mesure de donner un message d'effort et de solidarité. Il est important que le gouvernement se dote d'un plan stratégique qui montre à tout le monde que chaque citoyen, où qu'il naisse, a une chance. Il suffit qu'il s'inscrit dans les mécanismes, et là je rejoins celui qui a parlé de la scolarité, mais également des métiers et également du développement humain. Et c'est, à mon avis, les seules conditions nécessaires pour que ce domaine devienne une société normale sur celle que nous avons aujourd'hui, qui est une société totalement inacceptable. Donc mon point de vue, c'est que la répression de la délinquance par tous les mécanismes, c'est une très bonne chose, mais nous devons en parallèle donner ce qu'on appelle une prévention de la délinquance. Nous devons être en mesure de mettre en place des mécanismes qui nous permettent de développer des hommes dans des conditions de nature humaine. Bon, je donne un exemple simple. Lorsque une personne, ou une famille entière de 10 ou 15 personnes vit dans un 20 mètres carrés, qu'est-ce que vous attendez que nous sortions de là? C'est des conditions complètement indignes. Donc il y a tout un tas de choses qui doivent être mises en place pour que, aujourd'hui, nous puissions espérer avoir une société qui vit normalement. La violence que nous avons de la part de nos frères qui terrorisent les autres, qui tuent les autres, qui leur arrachent leurs biens, est un signe clair de l'échec de la société. Il faudrait qu'on s'interroge sur ça. Lorsque Douglas parle des emplois, bien entendu, pour avoir des emplois, il faut avoir des gens formés. L'école, l'école professionnelle, les universités doivent être faites de sorte que les gens qui en sortent soient capables de créer de l'emploi et lorsqu'on leur donne de l'emploi, qu'ils soient en mesure de l'assumer en toute compétence. Et là, à mon avis, nous ne sommes pas encore dans une situation dont on peut espérer sortir assez rapidement.
Mais Al-Kipengue, nous avons dernièrement le ministre de la Justice, je me rappelle, c'est notre élu du 8 janvier dernier, dans son cabinet de travail, il avait réélu tout autour de lui les magistrats de la justice civile et militaire qui étaient autour du phénomène Kuluna. Si je peux reprendre ce que le ministre a dit, il a dit que si les Kuluna s'étaient dilués dans les partis et regroupements politiques et habillés aux couleurs de partis politiques, nous avons évité qu'en les poursuivant pendant la période, bien sûr, des élections, nous soyons taxés d'étouffer la liberté d'expression. Mais ici, il se pose un problème. On a vu les acteurs politiques sont accusés, que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition, de pouvoir recruter ces jeunes, de pouvoir les utiliser, les manipuler. Mais dans ces conditions, comment allons-nous mettre fin à ces phénomènes si déjà au niveau de partis politiques qui sont censés porter des solutions aux problèmes au niveau de la société, on recourt, comme le ministre l'a dit, à ces jeunes, à ces communautés pour les utiliser dans la violence. N'est-ce pas là une façon de leur dire, voilà, vous êtes utile à la société, votre manière de vous comporter ne sert à rien simplement parce qu'on a besoin de vous.
Vous savez, le recours à la force barbare est un échec de société. Et si les hommes politiques s'y emploient, être ministre le sait et il prend une attitude attentiste, j'ai bien peur de où nous sommes. Alors moi j'ai envie de dire une chose simple, c'est que en réalité, les Kuluna que nous plaignons au niveau des communes centrales comme, comme Kinshasa, comme les grandes villes, mais c'est exactement ce que nous avons à plus grande échelle avec les différentes rébellions qu'on a à travers le pays. À partir du moment où l'État n'est pas présent, ne donne pas l'espoir aux gens de pouvoir avancer, il est clair qu'avec un sac de riz, $100 en poche et une arme, on crée une rébellion. Mm-hmm. En fait, les Kuluna sont une petite rébellion du type moderne, du type urbain. Et je crois simplement que ce phénomène que nous avons à plus grande échelle doit pouvoir interpeller, et surtout les politiciens, sur le fait que nous jouons avec le feu. Ces Kuluna peuvent attaquer tout le monde, y compris la sœur, le frère, le cousin d'un ministre ou de n'importe qui d'autre. Les Kuluna qui peuvent se transformer en rébellion armée, on a vu ce qui s'est passé avec les Inhélés à l'Équateur, ils sont dangereux pour tout le pays et donc il faut prendre conscience de leur dangerosité et il faut les prendre en charge. L'autre phénomène Kuluna dont on ne parle pas et qui peut à n'importe quel moment exploser, c'est ces jeunes gens qui sont sur le boulevard, que l'on a vu grandir les 10 dernières années et qui sont devenus des parents et qui deviennent de plus en plus dangereux parce qu'à un moment donné, s'il n'y a toujours pas des mécanismes pour les absorber vers une filière de valorisation, nous allons nous retrouver avec la rébellion en plein centre de l'île de Kinshasa et ça, c'est extrêmement dangereux. Tout aussi dangereux que cela est dans les zones où nous avons des rébellions armées.
Voilà. On vous garde en ligne, nous avons Michael qui est en Mandaka, Gabriel est à Béni, 081. C'est notre numéro d'appel, 081-890-6315. Nous avons quelques messages des auditeurs qui nous ont écrit par Internet, bien sûr, hein, l'adresse pa@radiotapis.net, mais aussi sur la page Facebook de l'émission Parole aux auditeurs. J'ai donc ma tonde dit ceci, je critique notre justice qui applique une notion à un corps sale. La source de tout cela, c'est la famille d'abord. Pax Alice qui débouque à vous. Il dit ceci, que l'État crée de l'emploi réellement rémunérateur. Tant que ces jeunes gens n'auront pas d'occupation saine, ils en trouveront une de nuisible. Les achats matina des Goma. Tout ça est parmi les facteurs de la mauvaise gouvernance. Et nos dirigeants créent des usines qui pourront occuper toutes ces personnes qui vagabondent sans but. Voici, et voilà, ça c'est le point de vue des achats et Matondo Matina. Vous êtes en ligne, Michael de Mandaka, dans la province de l'Équateur. Bonjour.
Bonjour, M. le journaliste. Bonjour à tous les invités de la radio. Je suis Michel Long, je fais la partie de Mandaka.
Et en Mandaka, peut-être que le phénomène que vous vivez n'est pas identique à celui des Kinshasa, vu la configuration de ce phénomène en Mandaka. Qu'est-ce qui peut être fait localement pour mettre fin à cela, Michael?
Bon, à mon humble avis, je pense que vis-à-vis à cette situation, il faudra que le gouvernement mette en place un système d'encadrement des enfants de la rue et ensuite l'offre d'emploi. Vous avez constaté que ici, chez nous, en Mandaka, et en RDC en particulier, je pense qu'il y a peu d'employeurs, mais trop de chômage. Donc, à ce moment-là, le gouvernement doit prendre les choses au sérieux, de mettre les choses en place pour que il n'y aura pas les enfants de la rue, et puis les Koulou Nala n'hésiteront même pas.
Mais Michael, mais est-ce que tous les Koulou Nala sont les enfants de la rue? On voit dans des quartiers qui affichent ça, ce sont des garçons qui sont dans le famille, qui sont bien identifiés. On sait qu'il habite sur l'avenue, il sort sur l'avenue avec une machette, il menace les gens, on les voit là, il rentre encore dans sa famille. Tous ne sont pas les enfants abandonnés qui se retrouvent dans la rue. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour que ces gens sont identifiés dans leur famille, Michael?
Bon, moi je pense que celui qui est à l'Équateur, dans la province de l'Équateur, il a les licenciés. Mais pour avoir un travail, il faut qu'il y ait des connaissances. Ce qui est aussi le mal, c'est ça. Donc, il y a le problème de connaissances. Si vous n'avez pas de connaissances, il n'y a même pas moyen d'avoir un travail. Ce qui fait aussi le mal. Donc, le tribalisme, c'est ça, ce qui.
Oui, voilà. Ok, voilà pour vous, Michael. Tout passe par un système d'encadrement. D'abord, vous avez dit, il faut encadrer ces enfants, ces jeunes, et puis leur procurer un emploi, une occupation. Comme ça, ils ne pourront plus se livrer au banditisme. Gabriel, vous êtes à Béni, au nord Kivu. Bonjour, Gabriel.
Bonjour, Pierrot.
On vous écoute, Gabriel.
Ok, je voulais donner aussi mon point de vue compte tenu des sujets qui nous sont en train de débattre. En tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec les ministres d'organiser les procès contre les CG. Je nomme les Koulouna entre parenthèses. Le problème, il faut d'abord résoudre ça à la source, c'est-à-dire, moi, j'étais dans le sens de la volonté politique et de la famille. Pourquoi d'abord la volonté politique? Parce que si nous avons un gouvernement responsable qui récupère l'éducation, que ce soit primaire, secondaire et universitaire, c'est-à-dire un gouvernement qui paye également les professeurs, c'est-à-dire qui donne accès libre aux enfants d'étudier. Pas comme aujourd'hui, il faut avoir l'argent dans la famille pour que votre enfant puisse aller étudier. Je pense que plusieurs de nos jeunes vont aller à l'école étudier et aider un gouvernement qui paye régulièrement un salaire-là, qui facilite aux parents de prendre en charge de ses enfants et de les faire scolariser et aussi d'autres besoins que l'enfant peut présenter. Je pense que petit à petit, ensemble avec les gouvernements et les parents, je pense que ce phénomène commencera petit à petit à disparaître. Mais aussi longtemps, nous demeurons toujours à parler, comme depuis l'année passée, on a débattu ce sujet, mais aujourd'hui ça continue. Et en plus, encore, ce qui est grave, les politiciens ont commencé à utiliser ces garçons pour défendre leurs causes comme des revendications. C'est ce que moi je crée. Parce que ça va encore devenir, comme l'autre MFK avait dit, ça peut devenir une rébellion urbaine. Petit à petit, ça va même toucher les régimes. Alors moi, je vois que c'est le problème d'abord du gouvernement. Après, maintenant, la famille va intervenir aussi. Et aider aussi le gouvernement, parce que le gouvernement ne peut pas aller jusqu'à chacune des maisons donner des conseils. La famille aussi doit aider aussi le gouvernement. Les maths qui vont, je pense, depuis la création de cette émission, tous les sujets que vous nous soumettez, c'est seulement le gouvernement qui est l'élément pivot, qui est responsable de tout ce que nous sommes en train de parler. Ça ne sert à rien d'organiser des procès, d'arrêter quelques personnes de Koulouna, mais vous voyez l'immensité même de la ville de Kinshasa, ils sont combien. Alors, le problème, il faut appréhender ça dans l'ensemble et d'une manière définitive. Et je pense que nous aurons la solution. Voilà ce que je voulais ajouter de ce que les autres ont dit.
Merci, Gabriel. Vous pensez que les procès ne vont pas résoudre le problème, mais le problème doit être considéré dans son ensemble. jeunes à la source, d'abord la volonté politique, l'éducation au niveau de la famille, l'accès à l'éducation, l'amélioration des conditions des parents aussi qui doivent supporter leurs enfants. C'est dans ce sens qu'on peut parvenir à lutter efficacement contre ce phénomène. Kassamabou, vous êtes à Bougne, vous allez garder la ligne. Le temps que Al-Kitenge puisse réagir, nous allons revenir à vous. Nous avons aussi le message de Fab Malik Mbouga, Wassindia, qui nous a écrit des Boutembo. Il dit ceci: l'État doit créer une politique familiale efficace pour sauvegarder les droits de l'enfant, car tout commence en famille. Il doit aussi promouvoir l'encadrement de ces jeunes. Christopher Rouania, qui est à Lubumbashi, dit ceci: c'est le chômage et le manque d'emploi qui est à la base de tout cela. Et enfin, de donner Mobicho, de Bukavu aussi, qui vous dit ceci: il faut chercher comment les rééduquer moralement, intellectuellement, aussi les occuper utilement. Notre pays est un chantier. Si on le rassemblait tous et créait des plantations pour les occuper, nous aurions tant de nourriture et on finirait en plus avec ces, pour mettre fin à ces problèmes de Kuluna. Nous allons garder Kassamba qui est en ligne et puis revenir à vous. Mais si vous avez besoin d'intervenir, écrivez-nous aussi à pa@radiocafé.net ou soit sur internet, laissez un message sur la page Facebook de l'émission Parole aux auditeurs. Mais au téléphone, c'est le 081 890 6315.
Au Café Retro, c'est revivre les tubes des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, no, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit. Avec les mix de DJ David.
Parole aux auditeurs, se penche sur les phénomènes Kuluna. Près d'une année que le ministère de la Justice a lancé l'opération croisade contre les Kuluna, plus de 23 procès ont été tenus. Plusieurs de responsables, d'entre les responsables de ces gangs, ont été arrêtés, condamnés à des peines de prison, mais les opérations continuent sur terrain. Les actes causés par ces bandits continuent dans la ville de Kinshasa et aussi ailleurs. Quelles sont les propositions pour vous, auditeurs, pour mettre fin efficacement à ces phénomènes? Nous en parlons avec Al-Kitenge qui est en ligne. Il est président de la Fédération du Karaté Do. Al-Kitenge, nous allons revenir maintenant au phénomène sportif, parce que beaucoup de ces jeunes, il y en a qui s'appellent sportifs, il y en a qui sont accusés même d'appartenir à soit des clubs de karaté, des catchs, des judo, des boxes dans leur quartier. Mais à ces niveaux, la responsabilité de responsables sportifs, en ce qui concerne surtout l'effort des combats dans l'encadrement de ces jeunes, y a-t-il vraiment une identification, un recensement pour savoir qui pratique effectivement une discipline sportive de combat par rapport à tous ces jeunes, comme on les appelle, sportifs dans le quartier?
D'abord, je vais faire une synthèse rapide de ce que j'ai entendu autour de la table et autour de ce que j'ai dit tout à l'heure. La famille, à mon avis, reste la cellule fondamentale de la production des citoyens responsables dans la communauté. Les enfants, ils ont des droits, mais ils ont également des devoirs. Ça, c'est extrêmement important. Mais pour que les parents puissent être en mesure de tenir les enfants, il faudrait qu'ils aient de l'autorité sur eux. Cette autorité, ils la perdent aussi vite qu'ils ne sont pas en mesure de donner un minimum à leurs enfants. Et là, ça remonte à toute la grande question de l'emploi des parents et de la rémunération, afin de leur laisser l'autorité. J'ai entendu un deuxième point, c'est les emplois. Qu'est-ce que cela veut dire? Des gens qui étudient, qui terminent leurs études, qu'elles soient secondaires ou universitaires, et qui n'ont pas de débouchés, qui ne savent pas où aller, se posent la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour finalement réussir dans la vie. Ils ne voient pas le tunnel, ils ne voient pas l'espoir. Il est important que tout le monde se rende compte que la chance ne vous donne absolument rien. L'effort coordonné vous permet d'avoir, dans une structure étatique organisée, les chances maximisées de pouvoir vous en sortir. Et ça, c'est le travail de l'État. Maintenant, je voudrais dire en curatif, quelles sont les choses qui peuvent être faites? Un service national soutenable et professionnel, totalement apolitique, serait une chose extrêmement importante pour être en mesure d'absorber massivement des gens qui peuvent aller en formation en même temps que ces gens produisent pour être en mesure de se soutenir. Deuxième chose, il y a des phénomènes comme le scoutisme qu'on a connu dans le passé, il faut les intensifier, puisque c'est des écoles de formation citoyenne. Et c'est très important parce que ça véhicule les valeurs, et ça, ça manque aujourd'hui. Troisième chose, et ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, les sports organisés. Lorsque vous vous entraînez dans des conditions correctes, par des professeurs qualifiés, et que vous vous entraînez à un endroit qui vous donne votre dignité humaine et vous valorise. Vous devenez un joueur de football qui gagne des millions comme partout ailleurs. Vous devenez un footballeur, un joueur de basketball comme ceux qui travaillent et jouent à la NBA dans une industrie sportive et vous gagnez votre vie. Regardez la plupart des jeunes gens qui excellent dans le football professionnel. C'est en grande partie des gens qui n'ont eu d'autres talents que celui-là. Et on le dit de manière assez claire, je ne sais rien faire d'autre que botter dans la balle de football, et ça lui a donné la vie. Et je crois simplement que si les gens pouvaient être en mesure d'utiliser leur talent, et que le pays leur donnait l'opportunité de développer leur talent et d'en vivre, ça marcherait mieux. Je donne un exemple simple pour continuer. La musique. Nous avons la production musicale la plus diversifiée et la plus aimée de toute l'Afrique. Nous n'en tirons aucune dividende. Aujourd'hui, nous avons des talents qui naissent et qui meurent sans que nous leur donnions l'opportunité de se développer. Quand on parle des emplois, il ne s'agit pas que des industries. Tout ça, c'est des secteurs des industries, l'industrie du sport, l'industrie de la musique et de l'art. Et moi, je pense simplement que l'État congolais doit savoir se donner des outils intensifs d'absorption de cette délinquance. Deuxième chose, en préventif, il faut que la formation soit poussée le plus loin possible. La plupart de nos frères et sœurs qui n'ont pas l'opportunité d'être dans les villes et qui sont dans les milieux reculés, qu'on leur donne l'opportunité d'être formés. Sinon, ils viennent tous dans les grandes villes à Kinshasa à ne rien faire et ils deviennent dangereux ici parce qu'enfin, ils doivent trouver leur mécanisme pour se débrouiller parce que leur rêve est brisé par la réalité de la ville de Kinshasa. Et par contre, les emplois qualifiés, il n'est pas acceptable. Il n'y a pas un être humain qui peut vivre à 50 dollars. Alors quand l'État congolais a un SMIC à 50 dollars, il faut savoir que c'est le germe de la destruction. Les gens vont se faire corrompre pour gagner de l'argent et prendre leur famille en charge. Nos policiers vont continuer à faire ce qu'ils font sur la rue. Nos militaires vont devenir dangereux pour nous-mêmes. Et donc il y a des phénomènes quantifiables sur lesquels il faut agir. Et ça, ça procède de ce qu'on appelle la volonté politique. Par contre, il y a un dernier élément. Il est en phase avec la responsabilité. Je disais tout à l'heure, les enfants ont des droits, mais ils ont des devoirs. Les citoyens, bien entendu, ils ont des droits vis-à-vis de l'État, mais ils ont également des devoirs. On ne peut pas être un pays où tout le monde vit gratuitement. À partir de l'âge de 18 ans, tout Congolais doit pouvoir être en mesure de s'acquitter d'une fiscalité. On ne peut pas vivre gratuitement. Et ça, c'est quelque chose d'important. À partir du moment où les gens se rendent compte qu'il faut payer pour vivre dans la communauté, que l'éclairage soit mis en place, que les routes soient mises en place, que les écoles soient financées, les gens vont comprendre l'intérêt d'aller travailler. Et là-dessus, lorsque vous entendez Gabriel ou Kassamba, ils ont tendance à responsabiliser les politiques, et ils ont totalement raison. Oui. Mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au sport, c'est une fausse accusation de penser que les sportifs sont ceux-là qui vont frapper sur les gens. C'est totalement faux. Aujourd'hui, qui sont les sportifs congolais, essentiellement dans les arts martiaux? Ce sont les meilleurs des sportifs dans ce pays. Toutes les médailles qui sont gagnées aux Jeux africains sont gagnées dans les arts martiaux. Alors moi, je me pose la question de savoir de quels sportifs vous parlez. Les transfuges de la mauvaise société, les erreurs de la mauvaise organisation de l'administration en général de ce pays ne peuvent pas être aujourd'hui attribués aux sportifs. Il y a peut-être bien que les gens qui soulevaient des poids et qui se donnaient un thorax et une colonne vertébrale déformée et qui se faisaient passer pour des sportifs ont terrorisé le pays, mais aujourd'hui, cette identification des gens qui sont en train de terroriser les gens, vous n'avez jamais entendu dire que parmi les gens qu'on a frappés, tel sportif a une licence et telle autre discipline. Donc on doit être en mesure de distinguer les choses. Le sport est une activité positive qui forme la discipline des individus et les arts martiaux ont ceci de particulier, ça forme des citoyens loyaux. Regardez les trois pays qui marchent le plus, la Chine, le Japon et la Corée, c'est le taekwondo, le judo et le karaté. Et ça forme des citoyens de haute valeur, qu'on ne confonde pas les choses.
Voilà. Nous avons Kassamba Kietabounia, Thomas Ilinda, vous êtes de la commission sécuritaire à CEF. Vous travaillez avec les partis politiques. Votre souci, vous avez lancé une campagne de recrutement des jeunes pour leur encadrement. C'est là, c'est un appui, bien sûr, au ministère de la Justice dans la lutte contre les phénomènes Kuluna. Nous allons vous donner la parole. Le temps de lire ce message de Jonathan Masumbuko qui est ici à Kinshasa. Il dit ceci, il faudrait que le gouvernement prenne cette histoire au sérieux, ensuite prendre des dispositions sévères afin de lutter contre ces banditismes. Bido Bolekela, il dit ceci, il essaie de la population régler à la manière sauvage. Pour lui, il pense qu'il faudrait laisser à la population, chacun se débrouiller et régler de sa manière, parce qu'il se rend compte que du côté de l'État, il n'y a pas de solution pour résoudre ce problème. Et là, ça risque d'être vraiment la jungle. Si chacun voudrait résoudre le problème de Kuluna de sa façon, ça risque d'être difficile même à gérer. mais c'est ce que pense Dido Bolekela, parce qu'il pense que du côté du pouvoir public, il ne voit pas des solutions. Jean-Pierre Macko, il dit ceci, les parents doivent prendre leurs responsabilités dans ce domaine. Dieudonné Tikala, il est à Bukavu. Il dit que l'État doit créer d'emplois pour que chacun soit en mesure de se prendre en charge et que les militaires soient aussi payés. Le ministère de la Justice doit exécuter cette tâche plus vite que possible, car il avait dit qu'on doit mettre fin à ce phénomène. Il faut que le ministère de la Justice continue jusqu'à l'éradication totale. C'est ce qu'il pense Dieudonné Tikala. C'est les Bikoko qui est par le Lubumbashi, dit que l'État doit créer des centres d'encadrement pour occuper sainement ces jeunes. Sinon, ils vont toujours revenir dans la société pour semer les désordres. Kassamba et Thomas, nous allons vous donner la parole après quelques secondes.
Parole aux auditeurs.
Et Kassamba, vous êtes à Bounia, c'est en province orientale. Bonjour.
Bonjour, monsieur Thomas. Bonjour, l'invité.
Vous avez suivi beaucoup d'intervenants depuis le début de l'émission. Plusieurs personnes sont revenues, bien sûr, sur l'État parce que la responsabilité dans la gestion de la communauté est bien sûr entre les mains du pouvoir public, mais aussi à ceux qui ont parlé, ceux qui ont évoqué la responsabilité des parents et la communauté, comme l'a dit Al-Kitengue, c'est un problème de toute la communauté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de toute la communauté Kassamba pour résoudre ce problème?
Au niveau de la communauté, normalement, dans l'ancienne communauté, l'enfant est éduqué collectivement. Mais actuellement, avec les moyens modernes de communication, les enfants apprennent beaucoup de choses à la radio, à la télévision et tout. Dans ce pays, on fait beaucoup d'émissions sur les musiciens. Au lieu de faire des missions sur les agriculteurs, inculquer l'amour de la terre aux jeunes gens, cela c'est très rare. Ce sont en fait que vraiment le ministère de la jeunesse ne soit pas seulement le ministère des sports, puisque nous constatons que c'est un ministère qui s'intéresse au sport. C'est un ministère qui fait comme dans le temps, hein, c'est-à-dire organiser des centres de formation professionnels pour former des vétérinaires, des agriculteurs, de moniteurs agricoles. Le Congo est très vaste et très riche. Il ne faut pas seulement qu'on passe tout le temps de monter la musique, parce que le bébé de ce chanson, c'est qu'il y a plus celui qui est le bien du genre. Beaucoup de jeunes gens préfèrent aller sur la situation, alors qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de famille. Et si un homme aussi a même de famille, mais les familles ne sont pas capables de les encadrer. Donc, l'amour de la terre, un ministère, le ministère, comme ceux de la jeunesse et du développement rural, doivent beaucoup faire pour quand même changer la mentalité de la jeunesse.
Merci beaucoup, Kassamba. Oui. L'éducation est très importante. Vous avez insisté sur le fait que le ministère des Sports, de la Jeunesse et des Sports ne doit pas seulement rester se pencher sur le sport. Il faut aussi beaucoup plus penser à la jeunesse, les centres d'encadrement, la promotion de l'agriculture, de la terre, pour mettre cet amour dans la jeunesse. Et ça peut permettre à freiner cet exode rural. On en a parlé d'ailleurs le vendredi dans cette émission Parole aux éditeurs. Il faut que beaucoup de jeunes envient la ville, mais à la fin, ils sont déçus, comme l'a dit Al-Kitengue, et ils vont gonfler les rangs des autres jeunes délinquants. Merci Kassamba. Nous sommes ici à Kinshasa. Thomas Ilenda, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour, mon frère.
Oui, au niveau du parti politique, on a vu cette mobilisation pour la récupération des jeunes et l'encadrement. Vous avez lancé d'ailleurs un communiqué que les jeunes qui puissent vous rejoindre. Vous avez besoin vraiment de pouvoir les encadrer. Mais qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour ces jeunes que vous invitez à rejoindre vos centres? Concrètement, ce que vous allez faire, c'est quoi pour les aider et lutter contre le phénomène Kolina, monsieur Thomas?
Vous savez, mon frère, ici on ne parle pas de causes, on parle de conséquences. Le phénomène Kolina, c'est une conséquence produite par quelques causes.
Mm-hmm.
Comme je veux parler de l'appui de M28 à cette lutte, permettez-moi de rappeler que M28, c'est la majorité du 28 novembre, donc la plateforme qui regroupe les partis acquis au changement, donc ceux qui ont œuvré pour la victoire du président Tshisekedi et ceux qui viennent de nous rejoindre, ceux qui ont compris finalement que la cause que nous défendions était juste et noble. Donc, en ce qui nous concerne, je dirais que nous sommes contents du fait que ceux qui ont créé ce phénomène puissent se ressaisir pour l'éradiquer bien qu'en retard. En ce qui nous concerne, je disais, l'autorité morale de notre famille politique, qui est connue de l'homme du droit, qui a combattu les antivaleurs durant toute sa vie, ne pouvait pas boucher ses oreilles face aux plaies de nos communautés. C'est dans cette optique qu'il s'est dégagé une option de contribuer à cette lutte. Cela a m'insuivant, à ma qualité de président de la commission sécuritaire de cette plateforme, d'assurer une formation à nos jeunes, formation qui sera précédée par l'identification des jeunes acquis au changement. Et la formation, je précise ici, la formation en éducation civique. Vous savez que souvent, quand il y a des activités de notre part, on nous accuse de tout. On dit parfois, il y a le clown qui gonfle nos rangs pour semer la désolation, tout ça. Et nous nous sommes dit qu'il était temps pour nous d'identifier nos jeunes, les former afin que cela ne puisse pas se répéter.
Voilà, vous avez suivi que votre souci maintenant, c'est au niveau des partis politiques, vous avez dit, parce que les partis politiques sont pointés du doigt dans plusieurs fois qu'ils utilisent les jeunes. Alors, vous procédez d'abord à l'identification des jeunes, vous les recrutez, vous les formez en éducation civique. Votre souci, c'est que ces jeunes, quand ils seront formés au niveau du parti politique, est-ce qu'ils vont avoir de l'emploi? Est-ce qu'ils ne vont plus encore revenir dans la rue? Parce qu'il y a ces problèmes, ils peuvent être formés à l'éducation civique, mais il faudrait quand même qu'il y ait une complémentarité d'autres actions, comme on a évoqué depuis le début de cette émission, pour que qu'une partie, c'est le monde, ne puisse pas recevoir une partie, et par manque de l'autre partie, et ces jeunes puissent retomber encore dans ces pratiques, monsieur Ilinda.
Oui, j'ai dit tout à l'heure qu'on parlait de phénomène alors que le problème c'est au niveau des causes. L'emploi, mon frère, c'est toute une politique. L'emploi, c'est toute une politique. Mais comprenez que si on n'est pas en mesure d'instaurer cette politique aujourd'hui, on peut au moins contribuer en soustrait les gènes de cette maladie. Donc, comprenez que l'éducation civique a toujours été une fondation, si vous parlez de la construction d'une maison.
Merci.
Donc, nous, on croit qu'en les formant, en les identifiant, en les encadrant, surtout pour la canalisation de leurs activités, leurs actions en phase avec les lois du pays. Donc, notre mission aujourd'hui.
Merci beaucoup, monsieur Thomas Ilinda. C'est vraiment important cette initiative au niveau de partis politiques pour la formation de ces jeunes et la canalisation aussi de leur énergie pour éviter qu'ils soient en opposition avec les lois du pays. Merci beaucoup. Vous êtes ici à Kinshasa. Donc, Richard, gardez la ligne. Nous allons revenir à vous. 081-890-6315. C'est le numéro d'appel, mais aussi par message électronique et envoyez-le à pa@radiocapi.net.
Lorsque le jour se lève, toutes les provinces se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, revue de la presse chinoise, toutes les infos s'écoutent entre 5 et 9 heures. Le meilleur de l'actualité sportive chaque demi-heure, des reportages qui vous donnent la parole, des infos pratiques et de la musique qui réveille. Lorsque le jour se lève, dès 5 heures, Radio Capi met le courant à la une.
Docteur Richard, vous nous appelez de Kinshasa, bonjour. Docteur Richard, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui.
Vous êtes en ligne, docteur Richard, on vous écoute.
Hein, oui,
par rapport aux solutions.
Je vous félicite pour cette émission. Je félicite aussi Al-Kitengue qui m'a épaté par beaucoup de bonnes choses qu'il vient de dire.
Merci.
Alors, mon intervention s'articule sur trois petits points. Une introduction. Dans l'introduction, je rappelle l'histoire. Vous savez que notre pays a connu beaucoup de rébellions. Et à la fin de chaque rébellion, lorsque on gratifie les rebelles, on leur donne des postes, il y a toujours des phénomènes semblables aux colons haïtiens. Souvenez-vous du phénomène Bill entre 60 et 65. Souvenez-vous du phénomène Wallace. Des rebelles qui ont, par exemple, massacré les pères à Kisangani, les fabricants d'anoirité étaient gratifiés. Les jeunes s'étaient rebellés sous forme de Wallace, sous forme de Bill, etc., etc. Dieu merci, il y a eu un prêtre fait à sa mémoire, Père Buffalo, qui a aidé le gouvernement à conquérir cette rébellion des jeunes parce qu'on a gratifié les couronnes en cravate.
Mm-hmm.
Ça, c'est l'introduction. Alors maintenant, pour le développement, quel enseignement pour donner quel travail à nos jeunes? L'enseignement est l'enseignement de savoir, que ce soit aux humanités, que ce soit à l'université. Par exemple, la route qui mène vers l'université, ce sont les Chinois qui sont venus afficher les eaux là-bas, pas nos ingénieurs fabriqués à l'université de Kinshasa. L'université et les écoles secondaires donnent le savoir qui ne conduit pas au savoir-faire. C'est ce qui multiplie les chômeurs. Et quand les chômeurs voient l'État, entre guillemets, gratifier les rebelles, et cette jeunesse qui est désemparée devient aussi rebelle sous la forme que Al-Kitting vient de dire. Donc, nous sommes en train de tourner autour du pot. Il faut qu'on revoie les choses, qu'on repense les nouvelles méthodes d'encadrement de la jeunesse, le phénomène Kuluna Patira. Conclusion, à la fin de cette émission, remettez la bande ou le CD de cette émission au ministre de la Justice et au ministre de la Jeunesse. Parce que la population est en train de s'exprimer et donner le ras-le-bol que les parlementaires ne donnent pas. Parce qu'ils parlent pour mentir. Or, la population dit la vérité. Parlement, parlement. Donc, nous sommes devant un problème d'abandon de la communauté par les soi-disant dirigeants. Et ces mêmes dirigeants viennent récupérer les jeunes pour les opposer quand ils sont dans les casaques des prétendants au poste par des partis politiques. C'est ça le jeu qui se passe.
Voilà.
On nomme la jeunesse, on détruit la jeunesse, de par la formation, de par la gratification qu'on donne à ceux qui ont tiré les armes pour tuer les Congolais, ceux qui ont enterré les femmes vivantes à l'Est, etc. Les jeunes voient. Et après, ils se rebellent.
Voilà.
C'est ce que j'ai appris de la bouche de beaucoup d'intervenants. Et je ne fais que résumer.
Merci, docteur.
Merci Richard, beaucoup.
Vous avez présenté la situation telle qu'elle est. Vous avez aussi proposé, et vous pensez qu'il faut d'abord des nouvelles méthodes pour parvenir à résoudre ces problèmes. Yves, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour Yves.
Bonjour aussi.
Mm-hmm. On vous écoute Yves.
Je suis en train de dire que, vous voyez, ce phénomène est un phénomène qui est apparu avec la défiance de l'autorité par rapport à ici au Congo, avec ses consécutives à la disparition de l'État, parce que l'État n'assume pas correctement ses responsabilités. Et ce que nous avons aujourd'hui, le phénomène criminel, dans son effectif, une histoire parentale pour aller dans la rue, et puis après, quelques années, ils sont devenus des grands bandits, des franchissements, et donc l'État emporte l'entière responsabilité. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut éradiquer ce phénomène. La première des choses, c'est la restauration de l'autorité parentale. Comment voulez-vous qu'un parent qui n'a pas de substance, et qui vient au besoin de l'enfant, parce que l'enfant a besoin de trouver une solution à beaucoup de problèmes qui se posent, mais si le parent est diminué, avec la focalisation de l'offense croissante que nous sommes en train de subir dans ce pays. Donc, vous comprenez que c'est délicat. Je pense que la première des choses, c'est restaurer donc l'autorité parentale.
Voilà.
Que les parents aient le moyen de subvenir aux besoins de leurs enfants. La première chose, c'est restaurer l'État. Restaurer l'État. Aujourd'hui, nous n'avons pas l'État. Nous avons l'État lorsque l'État est en mesure de répondre aux préoccupations, aux besoins de la population. Et lorsque l'État n'arrive pas à trouver solution aux problèmes et pour de la population, il n'y a pas d'État. Il y a absence de l'État. L'absence de l'autorité de l'État.
Merci Yves. Vous avez dit tout passe par la restauration de l'autorité parentale, mais aussi la restauration de l'État qui doit résoudre le problème de la communauté, de la société. Nous terminons avec un auditeur qui est à Goma. C'est Kikuni. Bonjour Kikuni.
Bonjour.
On vous écoute en deux minutes, votre point de vue par rapport
à
l'évolution de ce phénomène.
Oui, la question de ce
phénomène Kouluna, c'est une faiblesse de l'État et une faiblesse aussi des organisations non gouvernementales qui s'occupent des jeunes. Parce qu'en principe, il y a une autorité urbaine de Goma qui disait à son temps que l'on pouvait par exemple demander aux organisations qui s'occupent des jeunes d'organiser les Kouluna, d'organiser les enfants de la rue. Parce qu'ils reçoivent de l'argent pour encadrer ces jeunes gens, mais il ne faut pas.
Mmh.
Et du côté de l'État, par exemple, il y a une faiblesse parce que là, vous trouvez le gouvernement qui ne fait rien, qui ne fournit aucun effort, alors que on sait que le pays a beaucoup d'espace où on peut envoyer ces jeunes gens et ils peuvent être utiles au pays, par exemple, dans l'agriculture. On peut bien envoyer ces gens pour cultiver et là, ils vont produire beaucoup de choses et nous n'aurons pas de problèmes d'importation, par exemple.
Mmh.
Mais alors, l'État, c'est comme s'il avait démissionné. Et le problème se répercute toujours et on connaîtra toujours ce cas. Ici à Goma, par exemple, nous avons le cas des enfants de la rue qui ne sont pas nécessairement congolais parce qu'il y en a beaucoup qui viennent aussi du Rwanda. Mais je pense avec le courage, avec une organisation, ces gens pouvaient bien, et ce phénomène pouvait bien prendre fin, l'encadrement et aller les envoyer pour trouver du travail voilà. Quelque part.
Merci. Kikuli, vous êtes à Goma, tout passe par le renforcement de l'autorité de l'État, mais aussi des ONG, des parents. Il faut définir une politique pour parvenir à résoudre ces problèmes. Nous lisons le message de Rai Kaungu qui est ici à Kinshasa. Le phénomène Kouluna tire ses origines de la mauvaise gouvernance. Que pouvez-vous attendre d'une jeunesse façonnée sous la moule des antivaleurs des gouvernants? Pas de salaire, manque d'éducation, formation rabais, chômage. Les vrais Kouluna sont en col blanc au niveau des institutions. Ils s'occupent plus de leur poste que d'organiser la société. Doudou, Bis, dit ceci, la RDC carrément dans un procès. Pour régler ce problème, il faut que tous les ministères collaborent, car fermer une maison qui fabrique et distribue de l'alcool, c'est une bonne chose, mais il faudra créer un emploi pour la personne qui exploite cette installation, sinon ça va se déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Deuxièmement, il faudra rendre la scolarité gratuite au moins au niveau primaire et secondaire. Et la police, n'en parlons même pas. Ils ont aussi des problèmes de rémunération et cela ne peut pas le rendre efficace. Nelson Muyembe qui est ici à Kinshasa dit que si pour mettre fin à ces phénomènes Kouluna, je demanderai à l'État congolais de construire des centres de formation afin d'éduquer et former ces jeunes gens. La prison n'en est pas une solution pour mettre fin à ces fléaux. Arthur, en parlant de tolérance zéro, quelles catégories de Kouluna sont concernées? Parce qu'on dit qu'il y a aussi des Kouluna en cravate qui donnent l'exemple à la jeunesse et quand il y a de l'impunité pour les actes qu'ils posent. Fidel Katunga, qui pour terminer cette émission, dit ceci, notre gouvernement s'attaque toujours aux conséquences, pourtant, qui sont logiques, plutôt qu'il de s'attaquer aux causes. Le problème est une conséquence à la fois du chômage, du non-paiement des agents de l'État et du manque de politique efficace pour l'encadrement de la jeunesse. Bref, une mauvaise politique caractérisée par de vains slogans de la part des dirigeants. Payez les agents, rendez gratuit et obligatoire l'enseignement, donnez de l'emploi aux jeunes et vous n'aurez plus un seul Kouluna. Nous revenons à vous, Alkitengé, parce qu'on va conclure cette émission dans deux minutes. On a suivi les uns et les autres. On dirait qu'il y a des actions pour résoudre ces problèmes sont tellement isolées. Le ministère de la Justice à part, on arrête et des fois les policiers, les gens se plaignent, les policiers les arrêtent, on les libère. Et d'un côté, on parle du ministère des Sports, qui s'occupe plus des sports, on ne voit pas la jeunesse. Au niveau de la société, on sent que les efforts sont tellement disparates qu'enfin, comme l'a dit Dr. Richard, nous allons tourner autour du pot et on n'aura pas de solution s'il n'y a pas des efforts conjugués. Qu'est-ce qu'il faut faire en deux minutes pour que les efforts soient conjugués au niveau de toute la société, qu'on sent que tout le monde s'engage dans la lutte contre ce phénomène?
À mon avis, je peux résumer tout ça en quelques messages clairs. Le premier, c'est qu'il faudrait bien que l'État congolais envoie un message clair, qu'on réussit parce qu'on a fourni un effort. On ne devient pas riche parce qu'on a pris quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Les Kouluna en cravate qui sont des mauvais exemples doivent être découragés. Donc il doit être clair que les piliers de valeur sont les bases de notre société et ça déjà au haut de notre sommet de notre pays au niveau de la gestion du pays. Je disais, il est important que l'État dote la communauté de quelques plateformes au travers desquelles chacun peut exprimer son potentiel. Tout le monde n'a pas le même degré d'intelligence vis-à-vis de la science. Il y a des gens qui sont nés footballeurs ou basketteurs ou hommes de culture ou d'art. Il faudrait bien que l'État congolais multiplie les canaux par lesquels il canalise les potentiels des gens.
Mmh.
Deuxième chose, Il est important qu'en tout, il soit clair que la dignité humaine est la première des choses. Quand vous payez les salaires aux gens, que ce soit des salaires qui leur donnent une dignité minimum. Cela permet d'avoir une confiance restaurée dans la famille, mais également une confiance restaurée vis-à-vis de l'État. Troisième chose, nos écoles. Elles doivent être des écoles d'excellence pour tous. Un enfant, qu'il soit à Kaemba, qu'il soit à Chabunda, qu'il soit à Dilolo, il faudrait bien qu'il accède à une école qui lui donne le modèle. Et nos écoles doivent être ouvertes sur le monde. Aujourd'hui, la technologie le permet, et à des prix de plus en plus accessibles. Alors, une dernière des choses, et elle est importante, c'est le flux financier. Il faudrait bien que l'argent circule sur toute l'étendue de la République, dans toutes les couches. On ne doit pas avoir d'un côté ceux qui ont tout et de l'autre côté ceux qui n'ont rien, voilà. Parce que ceux qui n'ont rien pendant trop longtemps deviennent dangereux pour tout le monde.
Merci.
Pour terminer, je voudrais quand même vous dire une dernière chose, excusez-moi. La police doit être attractive et elle doit prendre les meilleurs. La même chose pour l'armée et la fonction publique, ça doit être des corps où on arrive par concours.
Merci. Merci beaucoup, Alkipendi, de nous avoir accordé de votre temps pour accompagner les auditeurs dans cette émission Parole aux auditeurs consacrée à la lutte contre le phénomène Kuluna à Kinshasa et ailleurs à travers le pays. Parole aux auditeurs vous retrouve demain, mardi. Nous allons parler de la TVA. Une première émission, c'était au début du mois, au début bien sûr de l'opération de la mise en application de la TVA. Nous allons faire les points avec vous un mois après dans votre milieu. Comment cela s'applique-t-il et se déroule-t-il chez vous? Soyez nombreux à vous inscrire à l'adresse pa@radiocapi.net. Merci à Marie-Chantal Lumba, Tiki Poutou, Eric Gakala pour la production de cette émission qui a été supervisée par Nicole Ngata. Vous allez la retrouver ce soir à 20h en rediffusion, 20h bien sûr, heure de Kinshasa. Au revoir et à demain.
Il est 12h.